Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu qui vient vers nous, le Dieu qui nous parle. Nous te remercions parce que ta parole est une parole bienfaisante qui nous permet de mieux te connaître. Seigneur, donne-nous de l'écouter avec attention et d'y répondre positivement. Je te prie pour Alex, Seigneur, veuille le garder dans ce temps de prédication. On te le remet bien particulièrement. Amen.
Il y a quelques semaines, Robert discute avec un ami musulman. Et alors qu'il lui parle du Christ crucifié, ce dernier lui dit « Mais comment peux-tu croire en un Dieu si vulnérable ?» Pour lui, la croix est une folie scandaleuse parce qu'elle révèle chez Dieu une faiblesse. Pierrette, elle, est en découverte de la foi chrétienne. Alors qu'elle éprouve du mal à croire en Dieu, elle cherche des raisons convaincantes sur laquelle baser sa foi. Alors elle parle un jour à une amie croyante qui va à l'église de la Garenne-Colombes. Et elle lui dit « Mais si seulement Dieu se révélait à moi par un signe miraculeux, ah, je saurais alors la vérité et j'aurais vraiment des bonnes raisons de croire. » Pierre Hugues, lui, est membre d'une église évangélique. Et il y a un collègue catholique avec qui donc il travaille régulièrement. Et alors qu'ils cherchent tous les deux à témoigner de leur foi à leur collègue, ce dernier, son ami catholique, lui dit un jour « L'évangile, c'est important, mais vraiment ce qui convainc les gens aujourd'hui, c'est de voir comment les principes chrétiens peut les faire devenir des gens meilleurs et comment ces principes chrétiens peuvent les faire se sentir plus près de Dieu. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu des discours pareils, si vous avez jamais été dans une situation pareille avec quelqu'un. En tout cas, je sais que certains d'entre vous sont passés par ou sont dans des situations pareilles, on dit des discussions comme ça parce que c'était le cas de deux de ces trois personnes. J'ai juste changé les noms et j'ai eu des discussions avec certaines personnes. Donc je sais que oui, vous faites face à de telles situations. Moi-même, je fais face à de telles situations et parfois j'entends ce genre de discours. Mais la question est-ce juste de penser ainsi? Est-ce juste de penser ainsi? À Corinthiens, au 1er siècle, ce genre de discours était très courant. Oui, ce qui frappait les gens, c'était des messages qui, à vue humaine, étaient sages et puissants. Par exemple, des messages qui étaient raisonnables, qui étaient bien construits et qui élevaient l'homme. Des messages qui paraissaient sages. Et ce qui persuadait les gens aussi, c'était des messages puissants, qui démontraient de la puissance chez le Dieu promu, et des messages puissants qui rendaient l'homme puissant pour justement qu'il puisse atteindre ce Dieu puissant. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui s'intéresse aux messages philosophiques et religieux qu'on peut entendre autour de nous. Donc c'est différent des Corinthiens qui s'intéressaient beaucoup à ces choses. Mais pour ceux qui s'y intéressent, en général, ce sont les mêmes critères de sagesse et puissance, ce qui paraît sage et puissant à vue humaine, qui convainc. En fait, à cause de la ferveur de la société pour des messages persuasifs, les Corinthiens en étaient arrivés à considérer l'évangile dans des termes de sagesse et de puissance humaine. Et c'est ce qu'on voit dans les quatre premiers chapitres d'un Corinthien. Vous pouvez peut-être lire ça à la maison, mais c'est ce que vous voyez dans ces chapitres. Alors, pour Paul, pour l'apôtre, c'est dangereux. C'est dangereux de faire cela, parce que ça rend la croix vaine. Ça vide le croix de sa force. C'est pour ça qu'il dit au verset 17 du chapitre 1 de 1 Corinthiens que vous avez en face de vous. C'est pour ça qu'il dit qu'il annonce l'évangile sans recourir à la sagesse du langage humain, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force, qu'elle ne soit pas rendue vaine. Alors, c'est quoi l'antidote, justement, pour ne pas rendre la croix vaine, pour ne pas la vider de sa force? Eh bien, premièrement, Paul va dire que même si c'est un message qui paraît fou pour certains, eh bien, il nous faut savoir que le message de la croix est la sagesse même de Dieu, et c'est la puissance même de Dieu qui sauve. Alors, ce premier point que nous allons voir sera un peu plus long que les deux suivants. Mais dans un deuxième temps, il va dire que Dieu choisit de sauver par ce message fou pour que la gloire soit la sienne. Et troisièmement, il dira que c'est par une prédication qui paraît folle dans sa forme que les hommes sont puissamment sauvés. C'est ainsi que la croix n'est pas rendue vaine. Lisons les versets 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 2. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Jusque-là, la lecture. La première chose que nous constatons dans ces versets, c'est que le message de la croix est une folie scandaleuse pour certains, mais une puissance qui sauve d'autres. Alors, c'est ce qu'on voit au verset 18, n'est-ce pas ? En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. Au verset 19, Paul cite un passage dans l'Ancien Testament, d'Ésaïe 29, où certains juifs rebelles envers Dieu en sont arrivés à se croire plus sages que lui. Pourquoi ? Parce qu'ils croient pouvoir cacher leur intention de lui, lui qui est le Créateur. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et parfois, c'est ce que nous tendons à faire aussi. À l'avance, Dieu annonce par Ésaïe qu'il fera disparaître la sagesse des intelligents. La sagesse des sages, et qu'il anéantira l'intelligence des intelligents, non seulement des juifs, mais aussi des non-juifs, d'après Paul dans notre verset, dans le verset 23 de 1 Corinthiens. Et Ésaïe dit que Dieu fera ceci, dans le contexte, si vous lisez Ésaïe 29, vous pouvez peut-être lire ça tout à l'heure, et il dit que Dieu fera ceci par un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement qui, selon ce passage que nous venons de lire, est la croix. Ainsi, verset 20, face à la présomption des soi-disant sages qui rejettent la croix, Paul dit qu'on ne peut finalement trouver de sages nulle part. Où est le sage, dit-il ? Où est le spécialiste de la loi et le discoureur de l'ère actuelle ? À partir de la fin du verset 20, on apprend que par le message de la croix, Dieu a frappé de folie, il a convaincu de folie la sagesse de ce monde. En fait, le monde, c'est-à-dire les personnes qui rejettent la croix, ont été frappées de folie parce que verset 21, à travers sa propre sagesse humaine, eh bien, le monde n'a pas pu connaître Dieu, n'a pas pu atteindre Dieu. En effet, on ne peut pas arriver à Dieu grâce à une plus grande moralité promue par une sagesse corinthienne du premier siècle. Et on ne peut pas atteindre Dieu au travers de messages qui promeuvent l'observance de rites bien ficelés ou des plus grands efforts moraux et intellectuels pour atteindre Dieu. Par exemple, des messages musulmans ou catholiques, ou même certains messages protestants. On ne peut pas non plus connaître Dieu en se détachant du mal, par une certaine religion à mystère des Corinthiens, de certains Corinthiens du 1er siècle. Ni par une prouesse de méditation dont me parlait un homme récemment. Non, Dieu frappe de folie toute sagesse humaine qui promet à l'homme qu'il peut atteindre Dieu sans passer par la croix, justement en sauvant que par la croix. Dieu frappe de folie des gens qui se pensent être sages en sauvant seulement par le message de la croix qui leur paraît être fou. C'est ainsi qu'il frappe de folie ces personnes. En effet, fin du verset 21, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication, à travers la folie du message de la croix. Alors on voit des cas concrets de cela au verset 22 jusqu'à 24, n'est-ce pas ? D'un côté, il y a les juifs, certains juifs autour de lui à son époque, des juifs qui veulent un Dieu puissant qui montre sa puissance par des signes, c'est-à-dire par des miracles. Alors c'est ce qu'on a vu la semaine passée avec Michael en Jean 2, n'est-ce pas ? Des juifs qui n'avaient pas foi en Jésus en tant que tel, mais seulement dans les miracles qu'il faisait. C'était juste une foi, je ne sais plus comment tu avais dit ça, une foi de face, pas une foi réelle. Et c'est aussi ce qu'on voit chez les chefs religieux quand Jésus meurt à la croix. Ils disent qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. Ils veulent un Dieu. Ils veulent un Jésus qui fait des miracles pour être convaincu. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas? Un peu comme Pierrette qui a du mal à croire. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas par un Jésus qui fait des miracles. On ne nie pas que Jésus fait des miracles, il fait encore des miracles aujourd'hui. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas par un Jésus, ce n'est pas la foi en un Jésus qui fait des miracles qui sauve, mais c'est la foi dans le Jésus qui meurt à la croix qui sauve. Pour ça, pour eux, cela est inadmissible. Le Christ crucifié est un scandale. De l'autre côté, fin du verset 22, il y a les Grecs. Il y a les Grecs ou les non-juifs qui cherchent une sagesse belle, humainement convaincante, et qui permet à l'homme d'atteindre Dieu par sa prouesse, par ses prouesses intellectuelles et morales. Alors quand ils entendent de Paul que leur accès à Dieu dépend uniquement du Christ crucifié, comme les Athéniens d'Actes 17, beaucoup d'entre eux prennent le Christ crucifié pour un scandale. C'est inadmissible. Et ils disent à ceux qui l'annoncent, on t'entendra là-dessus un autre jour. Mais comme l'ami de Robert, ils disent, comment peux-tu croire en un Dieu si vulnérable? C'est absurde. Mais Paul veut que l'on sache que même si le message de la croix est un scandale pour certains, une folie pour d'autres, il est la vraie sagesse de Dieu et la vraie puissance de Dieu pour sauver des hommes et des femmes pécheurs. Verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes parce que la croix sauve là où aucune sagesse humaine ne peut sauver. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes parce qu'elle sauve là où aucune puissance humaine, aucune force humaine ne peut sauver. Alors en entendant ceci, il convient de se demander quand est-ce que il m'arrive de considérer la croix comme étant un scandale ou une folie. Alors peut-être que ça, pour certains d'entre vous, vous direz « Ah non, moi jamais, jamais je penserai cela ». Mais n'est-ce pas ce que nous pensons au fond quand on se dit avoir, ou quand on pense avoir passé une bonne journée, une journée durant laquelle on était respectable, on était bon quand même, assez bon, hein. Et puis spirituellement perspicace. Et du coup, à cause de cela, quand même, Dieu doit nous voir d'un œil favorable, n'est-ce pas? À ces moments, est-ce qu'on n'est pas en train de considérer la croix comme une folie et un scandale? Parce que nous sommes assez forts, nous, et assez sages pour atteindre Dieu nous-mêmes. Que Dieu nous garde de penser ainsi. Et que repentant, nous trouvions notre refuge seulement dans cette croix puissante et sage. C'est le seul message qui sauve. Retournons à nos amis de tout à l'heure, du début, et voyons si leurs interlocuteurs avaient raison de penser comme ils pensaient. Ou comme Pierrette avait raison de penser comme elle pensait. Alors, face à son ami, qui considère la croix comme un scandale et une folie, Robert pourrait être tenté de rechercher des miracles, des choses qui frappent à son ami musulman, qui montrent qu'il est puissant. Ou il pourrait tenter de parler des exigences morales qui découlent de la foi chrétienne. Et ceci pour le convaincre. Mais non, non. Dieu l'appelle. Dieu nous appelle à persévérer dans le partage du message du Christ crucifié, seul message qui sauve. En proie au doute, Pierrette est tentée de se concentrer moins sur la croix et de rechercher plus de signes et plus de miracles pour être convaincue. Mais non, c'est pas la foi en un Jésus qui fait des miracles qui sauve. Non, c'est seulement le Christ crucifié qui sauve. D'ailleurs, c'est ça le miracle. C'est ça la puissance vraiment de Dieu qui peut nous convaincre et qui va nous sauver. C'est le seul message, c'est la seule fée qui éloigne de nous nos péchés et la conséquence de nos péchés, le jugement que l'on mérite, qui les éloigne de nous comme l'ouest l'est de l'est. Et si on se confie en lui. Même si ce message ne paraît pas très impressionnant, Dieu nous appelle à persévérer dans la foi en ce Christ crucifié. Parce que c'est le seul message qui sauve. Alors face à des gens qui proclament une sagesse et une spiritualité qui élève l'homme, moralement peut-être, et qui délaisse la croix parce que ça va paraître scandaleux à ceux qui nous écoutent, Pierre-Hugues est appelé à se méfier de telles personnes et à les avertir, par exemple son collègue, parce qu'il ne partage pas la seule sagesse qui sauve avec ses collègues. Comme la croix est la vraie sagesse de Dieu et le seul message qui sauve, il doit s'efforcer et nous devons nous efforcer de nous concentrer sur ce message-là, pas sur les exigences morales qui en découlent, parce que c'est pas ça qui sauve, mais sur la croix qui est le seul message qui sauve. Ainsi, c'est ainsi que la croix ne sera pas rendue vaine. Alors on va considérer le deuxième élément maintenant qui fait que la croix n'est pas rendue vaine. C'est par ce message fou de la croix que Dieu choisit de sauver pour humilier ceux qui s'enorgueillissent et pour que lui ait toute la gloire. Et on voit ça dans les versets, c'est versets 26 à 31. En fait, en considérant l'évangile selon des critères humains, les croyants de Corinthe couraient le risque de rendre la croix vaine parce que ils couraient le risque de voler la gloire de Dieu pour se l'accaparer pour eux-mêmes parce que eux, ils se croyaient être vraiment sages et puissants. À cela, Paul leur dit, verset 26, de considérer leur situation quand Dieu les a appelés. La plupart d'entre eux n'étaient ni sages, ni puissants, ni nobles selon les critères humains. C'est donc tout à fait déplacé de se croire être quelque chose dans ce monde et se montrer fier. En fait, versets 27 et 28, Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses qui ne sont rien dans le monde, pour couvrir de honte, pour humilier ceux qui sont fiers de leur soi-disant sagesse, de leur soi-disant puissance. Ainsi, verset 29, personne ne peut faire le fier devant Dieu. C'est pas que Dieu déteste ces personnes ou qu'il ne les sauve pas. En effet, Paul dit ici dans ce passage qu'il n'y a pas beaucoup de sages parmi eux et pas beaucoup de nobles et pas beaucoup de puissants. Et ça veut dire qu'il y en avait certains qui avaient été de ces catégories de personnes et que Dieu avait sauvé. Non, ce que Paul est en train de dire ici, est-ce que l'expérience humaine nous montre, nous confirme, c'est que ceux qui sont sages et intelligents, ceux qui sont riches et puissants, ceux qui sont nobles et reconnus selon le monde, sont souvent, c'est vrai que pas toujours, mais ils sont souvent orgueilleux devant Dieu. Ils pensent pouvoir arriver à Dieu indépendamment de lui, indépendamment de la croix. Et ceci grâce à leur puissance, à leur intelligence, à leur sagesse, à leur moralité. Mais cela n'est pas possible. C'est pas possible car notre tendance invétérée à tous, c'est de vouloir occuper la place de Dieu. Et c'est vraiment notre tendance à tous. Et c'est ce qu'on voit en pratique. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ce que la Bible nous dit. D'une certaine manière, on est quelque part tous fous. Parce que quand on pêche, on veut prendre la place du Dieu créateur et décider ce qui est bon de nous-mêmes. On se rebelle contre ce Dieu créateur et on fait un coup d'État. Mais c'est de la folie parce que nous sommes les créatures. Et cela est sérieux et ça mérite un juste jugement face à Dieu. Parce qu'on a vu qu'il est saint ce matin, n'est-ce pas, déjà? Ayant été si rebelle, aucun effort humain ne peut nous permettre de l'atteindre, vu qu'on a fait un coup d'État contre lui. Aucune sagesse, aucune puissance ne peut nous aider. Humaine, je veux dire. Cela humilie profondément l'homme, n'est-ce pas? Cela nous humilie. Mais c'est juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu choisit de sauver des gens qui se reconnaissent comme étant peu de choses devant lui. C'est un choix qui paraît fou, mais il humilie ceux qui sont orgueilleux devant lui, et c'est juste. Et il glorifie Dieu. C'est ce qu'on lit au verset 31. Dans ce verset, Paul dit « Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. » Oui, la seule fierté qui est appropriée devant Dieu, c'est quoi? C'est la fierté de Dieu, la fierté de Christ. En effet, verset 30, c'est grâce à Dieu, par sa sagesse, par la croix, qu'on peut être en Jésus. C'est seulement ainsi que sa justice parfaite peut devenir la nôtre. C'est seulement ainsi que sa sainteté parfaite peut être la nôtre. Lui qui est le libérateur, qui est venu pour prendre le jugement qu'on mérite et pour nous donner sa justice si on se confie en lui. Si donc pour une raison ou pour une autre, on commence à se sentir comme étant quelque chose, par exemple parce que notre réputation croît au travail, ou si nous arrivons au fond de nous-mêmes de vraiment de se croire fort et signifiant, peut-être à cause de notre arrière-plan, à cause de notre bonne famille, ou à cause de notre stabilité financière, ou si nous arrivons de nous sentir bien devant Dieu, parce que quand même on est meilleur que hier, ou parce qu'on est meilleur que notre voisin. Alors Dieu nous dit, oh là, calme-toi Alex. Michaela, calme-toi. Rappelle-toi de ta situation quand je t'ai appelé. Et si tu étais quelqu'un de bien, quelque chose selon le monde quand je t'ai appelé, rappelle-toi de ta situation devant moi quand je t'ai appelé. Sans la croix, tu n'étais rien. Sans la croix, tu n'es rien. Mais avec la croix, grâce à la croix, tu as tout. La sainteté de Jésus, la justice de Jésus, la libération. Si on est en de bons termes avec Dieu, et ceci pour l'éternité, c'est nullement grâce à nous. C'est seulement grâce à Dieu, grâce à la croix. À Dieu seul soit la gloire. Alors, une fois de plus, ces versets parlent à nos amis, à Robert, Pierrette et Pierre-Hugues. Et à ceux-ci, Dieu leur dit que c'est extrêmement dangereux de croire ou de laisser croire à ses amis qu'on peut l'atteindre par une certaine moralité ou une puissance ou une sagesse. Cela ne fera que les rendre plus orgueilleux devant Dieu et plus aveuglés. Et il nous faut les avertir que Dieu humiliera les orgueilleux. Et les orgueilleux qui dépendent d'eux-mêmes. Et il faut aussi les inviter à mettre leur fierté en Jésus seul. Et il faut nous-mêmes mettre notre fierté qu'en Jésus. Alors même si cette prédication paraît folle, il faut qu'ils comprennent. Il faut que nous comprenions, tout comme les Corinthiens, que c'est par celle-ci que Dieu sauve puissamment. Et nous en sommes au dernier point. C'est les versets 1 à 5 du chapitre 2. En fait, parce que les Corinthiens tendent à considérer l'évangile selon des critères humains, Paul fait face à des critiques de la part des Corinthiens, non seulement par rapport au fond de son message, qui est la croix, mais aussi par rapport à la forme de sa proclamation. Et face à ces critiques, l'apôtre Paul se défend vraiment catégoriquement, parce qu'il craint que leur façon de voir la forme de sa prédication va les détourner du fond de la prédication, de la croix carrément, qui va être rendue vaine. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais ce qui est frappant dans ces versets 1 à 5 du chapitre 2, c'est de voir comment la forme de sa prédication est déterminée par le fond de sa du message. C'est de voir comment son message, sa prédication, suit le chemin de la croix. Verset 2, il avait décidé de connaître parmi eux, comme ailleurs, rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le fond de sa prédication n'a rien à voir avec le fond de la prédication des autres qui l'entourent, des autres orateurs, parce que eux ne parlent pas du Christ. Et la forme de sa prédication n'a rien à voir avec leur prédication non plus, parce que eux cherchent à frapper l'œil. Ils cherchent le prestige, ils cherchent à convaincre par la puissance de leur parole. Paul, lui, verset 3, il est venu chez eux humblement, faible, craintif et tout tremblant. Pourquoi comme ça? À cause des persécutions qu'entraînait le message de la croix qu'il proclamait. Verset 1, il n'est pas venu vers eux, leur annonçant le témoignage de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, avec une supériorité de langage ou de sagesse. Verset 4, sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et verset 5, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? C'est pour que leur foi soit fondée sur une démonstration, soit fondée sur la parole, la puissance de Dieu, pour qu'ils soient réellement sauvés sur la croix, et pour pas qu'elle soit fondée sur la sagesse des humains, et qu'en conséquence, ils ne soient pas sauvés. Alors cela ne veut pas dire que Paul ne soignait pas sa communication, qu'il n'essaie pas de faire tout son possible pour communiquer de manière claire et pertinente. Dans 1 Corinthiens, on voit qu'il utilise l'ironie, la rhétorique, etc. Et comme lui, nous devons tous essayer de faire tout notre possible pour être les plus clairs dans ce qu'on nous disons. Nous devons soigner notre forme, ne pas parler avec un jargon, un vocabulaire trop compliqué que personne ne va comprendre. Peut-être expliquer des mots comme péché, expiation, propitiation. Il ne s'agit pas de parler de choses comme ça aux non-croyants qui ne comprennent pas. Il faut faire des efforts, comme Paul faisait des efforts. Mais alors que la prédication de Paul ne payait pas de mine, il voulait que ses lecteurs réalisent qu'une prédication centré sur la croix dans le fond et dans la forme, eh bien, elle reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance selon les termes du verset 4. C'est important de remarquer cela. En effet, nous avons vu au verset 18 que le message de la croix est la puissance même de Dieu. Et dans les versets qui suivent notre passage, on apprend que l'œuvre puissante de l'esprit de Dieu est de permettre aux gens de saisir, de recevoir la sagesse de Dieu qui est la croix, le message de la croix. Donc une prédication dont la forme et le fond sont centrés sur la croix, eh bien c'est une démonstration de puissance et de l'esprit de Dieu. Donc même si l'orateur que vous écoutez un jour, même que celui que vous écoutez maintenant peut-être, même s'il n'est pas hyper éloquent, il ne faut pas le mépriser. En fait, si son message est centré sur la croix, si son message est façonné par elle, alors sa prédication, selon les critères de Paul, sa prédication est réellement puissante et une démonstration de l'esprit. L'esprit est à l'œuvre par cette prédication. C'est par des prédications folles et par des partages, peut-être vos partages auprès d'autres personnes qui paraissent fous, que Dieu agit pour sauver et pour fortifier les autres croyants. Il faut qu'on se rappelle de cela quand on entend des messages qui nous frappent, peut-être sur Internet, peut-être à des réunions, peut-être ici. Posons-nous la question, c'est quoi qui nous frappe? C'est quoi qui me frappe? Est-ce l'éloquence de la personne? Est-ce la puissance de la parole? Ou est-ce que c'est la croix? Est-ce que c'est la croix? N'oublions pas que Satan vient en tant qu'ange de lumière et que dans les derniers temps, des gens viendront, ils feront des miracles pour nous égarer, pour égarer des gens. Dans le critère par lequel on voit si une prédication est sage et puissante et imprégnée de l'esprit, c'est la croix. Que la croix. Toujours la croix. Si un jour vous entendez des prédications, si un beau jour vous entendez des prédications ici où la croix n'est pas au centre, alors parlez-en à ceux qui viennent donner le message. Parlez-en aux anciens, parce que cela est grave. C'est ce que Robert, Pierrette et Pierre-Hugues doivent comprendre, que c'est la croix qui importe. C'est ce que nous devons comprendre. Juste pour terminer, un petit témoignage. J'étais encouragé il y a quelques temps, il y a quelques mois, en parlant avec un croyant. Un croyant qui avait été croyant depuis de plusieurs années quand même, une dizaine, même plus de 10 ans. Il m'a dit qu'après tellement de temps, il avait finalement compris. Il m'a dit, avant je recherchais des miracles et des signes de la providence de Dieu matériels. Mais maintenant, j'ai compris que ce qui importe vraiment, ce qui montre la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est la croix. Prenons exemple sur cet homme, prenons exemple sur Paul et concentrons-nous sur la croix. Accrochons-nous qu'à la croix. Proclamons que la croix. Parce que c'est ça le message, le seul message qui sauve. Prions pour terminer. Père, nous voulons te remercier pour la croix du Christ. Merci pour cette sagesse merveilleuse. Seule sagesse qui sauve, parce que c'est seulement par cet échange à la croix de Jésus, le fait qu'il prenne nos péchés et la punition que nous méritons, et qu'il donne sa justice et la paix et la réconciliation avec toi par sa mort. Père, merci pour ce message merveilleux et puissant, ô combien puissant, qui fait ce qu'aucun de nous peut faire, ni par notre moralité, ni par notre sagesse, notre intelligence. Père, donne-nous de nous accrocher à la croix seule. À toi seul soit la gloire. Donne-nous vraiment de persévérer dans nos partages, dans notre témoignage auprès des gens autour de nous. Donne-nous de nous concentrer sur la croix, de ne pas rechercher autre chose, de ne pas nous concentrer sur autre chose, mais seulement sur la croix, parce que c'est seulement cette croix merveilleuse par laquelle on peut être sauvé. On te remercie. On te loue pour cette croix. À toi seul soit la gloire. Amen.